Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans 30 minutes, le journal de Tumulte, nous recevrons Laurent Cordonnier, économiste et maître de conférence à l'université Lille 1. Mais d'ici là, 30 minutes de musique en forme de petit hommage à Hector Zazou, décédé la semaine dernière. C'est le contenu de ce tumulte numéro 975. Jean au micro, salut. Hommage à Hector Zazou donc, mais avant, un petit signe à Rick Wright, organiste du Pink Floyd, qui vient de disparaître. Saucer Full of Secrets. Extrait. Petit hommage à Hector Zazou avec des extraits des deux albums de ZNR, Barricade 3 et Petit traité de mécanique populaire. Des extraits aussi des Nouvelles Polyphonies Corse et de Zazou Bikai. ZNR, Hector Zazou, Joseph Racaille, Arven Haineux. Zazou Bikai.
Climb up in the dense. You can see more people on the but he can make it for the walls and the end of Brockham, but now listen.
Oído soy
Zazou et les nouvelles polyphonies corses.
Oh.
Hector Zazou et ZNR, extrait de Barricade 3.
Les pièces du jeu sont couchées sur le sol. Cosas caminando emptiness.
Zazou et Bonnie Bikai. Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9. Libre et sans pub, dans un instant, le journal de Tumulte. Le journal de Tumulte avec Guy. Dans ce journal, nous recevons Laurent Cordonnier, économiste et maître de conférences à l'université Lille 1. Au sommaire de ce journal, la crise financière, économique, mondiale est bien là. On en cause et on verra ensuite d'autres petits points comme la question du financement du RSA. Et puis aussi, on fera le point sur nos lectures de vacances.
Bien, pour amorcer cette première partie là, du journal, j'ai sous les yeux le Monde diplomatique de septembre 2008. Jean vient de me le filer très très gentiment et je l'ai ouvert à la...
Il faudra que tu l'achètes quand même.
Ouais, on va essayer. Aux pages 6 et 7 donc du Monde diplomatique septembre 2008, un article intitulé « Les turbulences financières contaminent l'économie réelle ». On est en plein dans l'actualité et un sous-titre est-ce la fin du laisser-faire. Alors cet article est signé par Laurent Cordonnier et Laurent Cordonnier est avec nous, hein, Jean l'a annoncé, donc ça va être l'occasion d'évoquer cet article et la situation. Donc pour commencer peut-être Laurent deux petites remarques. Je suppose que cet article qui s'installe complètement dans l'actualité très récente. Tu ne l'as pas écrit il y a quelques jours, tu l'as écrit plutôt il y a quelques semaines, quelques mois peut-être, non ? Donc une situation qui était prévisible.
Le papier était écrit au mois d'avril.
Ouais.
Et j'ai fait quelques petites corrections au mois d'août, mais c'était pas des corrections sur les questions financières. C'était juste des ajustements pour actualiser des chiffres.
Donc pas vraiment une surprise ce qui se passe.
Non, c'est pas une surprise. Non.
Alors le sous-titre est-ce la fin du laisser-faire ? On n'a pas l'impression puisque bon, à limite les États-Unis, enfin le gouvernement fédéral américain aurait pu intervenir pour éviter la faillite de la banque Lehman, hein, qui est le déclencheur de cette crise. Donc les États-Unis sont pas intervenus, donc c'est pas la fin du laisser-faire.
Alors peut-être qu'il faudrait pas commencer par là parce que ça fait partie de l'ensemble de la discussion et en réalité mais il faudra peut-être reprendre le fil des choses depuis le départ, mais on en est bien là aujourd'hui quand même et tu as raison de le dire. Je pense qu'on est sur cette espèce de fil du rasoir où les autorités les plus hautes autorités financières américaines se demandent, hésitent s'il faut basculer complètement d'un côté et jeter aux orties les oripeaux idéologiques du libéralisme, ou si il faut encore essayer de sauver ce qui peut l'être de ce dogme. Mais je pense qu'avant de voir où on en est exactement aujourd'hui,
on va essayer de décortiquer donc cette situation, Jean.
Oui, on va peut-être parler de cette crise. Bon, manifestement, la crise est là. Elle est mondiale. Bon, on va voir si elle est mondiale. En tout cas, elle est partie des États-Unis et elle se présente d'abord comme une crise financière avant d'être économique. Alors, l'origine, bon, on en avait déjà parlé lors d'une précédente émission, donc avant ces vacances d'été, la question des subprimes. Alors maintenant, dans les médias, on parle de ça comme quelque chose de courant.
Parfaitement entendu,
connu de tout le monde, alors que ce terme-là était parfaitement ignoré, jamais cité quelques mois auparavant. Alors quand même, revenons sur cette crise, son origine. C'est quoi cette histoire de subprime, même si tu l'as déjà expliqué.
Alors en quelques mots, mais enfin il faut quand même prendre un petit peu le temps de réexpliquer. Alors d'abord, on le dit comme ça, la crise au départ est financière, mais elle a quand même des fondements bien réels. La crise des subprimes a démarré parce que les banques américaines se sont mises à faire des prêts immobiliers à des ménages ayant des revenus modestes, voire extrêmement modestes. Et s'il y a des ménages extrêmement modestes aux États-Unis qui ont du mal à trouver un logement, c'est parce que, grosso modo, depuis 20-25 ans, l'économie américaine ne voit plus croître les revenus des classes moyennes et inférieures. Hein. C'est vraiment tout pour les 5% de la population les plus riches. Et donc les banques se sont mises dans l'idée de, disons, de draguer ce public à bas revenus pour tout de même lui proposer des prêts immobiliers pour qu'ils deviennent propriétaires de leur logement. Et leur ont concocté pour les appâter des formules de crédit qui semblait intéressante pour les ménages, c'est-à-dire que dans le contrat, bah, les premiers mois, vous payez des mensualités assez bénignes, dans les 18 ou 24 premiers mois du contrat, vous payez des mensualités faibles, et puis très rapidement, les taux d'intérêt et les mensualités que vous devez rembourser augmentent, et de manière extrêmement significative. Pourquoi les banques ont pris ce type de risque, hein, prêter de l'argent à des gens qui ont des faibles revenus et en plus en leur tendant d'une certaine manière un piège qui était qu'au bout de 2-3 ans, c'était certain, ces personnes-là allaient se sentir plutôt égorgées par leur crédit. Mais parce qu'il y avait une flambée des prix de l'immobilier aux États-Unis et donc les banques prenaient des hypothèques sur ces logements et puis se disaient, ma foi, si de toute façon le client n'arrive pas à rembourser, comme le logement aura pris 30 à 40% d'ici 24 mois à 36 mois, on foutra les personnes dehors et on revendra les logements de ces personnes. Donc voilà le pari spéculatif qui a été fait par les banques pour mettre en place ce type de crédit. Alors, la crise s'est déclenchée pour une raison simple, c'est que est advenu ce qui devait arriver. Les ménages américains qui étaient embringués dans ce type de crédit ont commencé à être piégés par la montée très rapide des remboursements qu'ils devaient faire, et donc il a commencé à y avoir de manière très significative une montée des défauts de remboursement de ces crédits. Bon, et c'est à ce moment-là que, d'une certaine façon, tout commence, parce qu'il y a deux événements qui se produisent. Non seulement les banques ont fait beaucoup de crédits à ce type de ménage, c'est-à-dire qu'au moment où il y a les défauts de paiement et que les banques veulent se refaire en vendant les maisons ou les appartements de leurs clients, ben, comme ils ont fait ça à des millions de ménages, toutes les banques se mettent à revendre au même moment les logements qui leur servaient de garantie. Et donc provoque la chute des prix de l'immobilier sur le marché immobilier américain. Et du coup, les banques voient leur pari spéculatif déjoué, simplement parce qu'elles dénouent tout ensemble leur position au même moment. Et à ce moment-là, certaines banques, de manière directe, commencent à encaisser des pertes sur les prêts immobiliers qu'elles avaient faites. Mais alors, on pourrait dire ça, c'est l'écume des choses, parce que si la crise a vraiment démarré, c'est que la finance a quand même beaucoup d'inventivité, c'est que la plupart des banques n'ont pas gardé dans leur bilan, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas gardé pour elles, ces crédits ou ces créances qu'elles avaient sur les ménages. Un crédit, c'est une promesse de remboursement et ça vaut quelque chose. Ça vaut le prix de ce qui reste à rembourser dans les 15 ou 20 ans qui viennent. Et en fait, elles ont regroupé ces crédits par lot. Elles en ont fait des produits un petit peu complexes. Et puis, elles les ont revendus sur des marchés à des sociétés d'investissement qui avaient envie d'acheter des crédits dits subprimes parce que les taux d'intérêt payés par les ménages sur ces crédits étaient supérieurs aux primes, subprimes, supérieurs aux primes parce que plus risqués. Bon. Et donc, s'est développé tout un marché où on a fait des lots de crédits risqués, plus ou moins risqués, carrément pourris ou toxiques. Même on a appelé certains lots vraiment toxiques parce que les clients représentaient un gros risque. Mais il y avait toujours un prix auquel il y avait des investisseurs qui voulaient racheter les créances. Simplement, quand les défauts de paiement ont commencé à être réellement avérés, tous ceux qui avaient acheté des lots de subprime se sont retrouvés scotchés avec ces titres, et surtout ne pouvaient plus les revendre sur le marché, parce qu'on s'est mis à se défier complètement de ces lots de crédit qui avaient été, comme on dit, titrisés, transformés en titres, en objets de commerce. Et là, toutes les banques s'en sont absolument défiées, tous les investisseurs s'en sont défiés, ce qui fait que le prix de ces paquets là sont tombés à zéro sur les marchés. Ne pouvaient plus se revendre. Et donc, toutes les banques, les compagnies d'investissement, les fonds de placement collectif en épargne, ont dû, à la fin de l'année, passer dans leur bilan le fait qu'elles croyaient avoir des trucs qui valaient 3 à 4 milliards de dollars, et puis au bout du compte, valaient 0 milliard de dollars, puisque sur les marchés, on ne pouvait plus les vendre. Voilà, ça a commencé comme ça, par à la fois les défauts de paiement des ménages, mais surtout la panique qui s'est étendue comme un virus dans l'ensemble des institutions financières, parce que des crédits tritrisés comme ça, ils en trouvaient partout. Tout le monde en avait racheté, revendu, on les avait recompactés plusieurs fois.
Pas seulement aux États-Unis.
Et pas seulement aux États-Unis. Dans pratiquement toutes les banques du monde, alors à des degrés plus ou moins élevés. La banque suisse UBS en avait des tonnes et a failli capoter.
Oui, des fonds de pension, etc. Mais une banque aussi prestigieuse, une banque d'affaires que la banque Lehman, là, dont on parle beaucoup, qui a fait faillite, elle était aussi tombée dans ce piège.
Alors, bien entendu, au départ d'ailleurs, dans les comportements des banques où on joue gros sur les marchés financiers, il faut savoir hein, d'ailleurs que le produit bancaire aujourd'hui c'est quasiment 60% d'activité sur les marchés financiers. Et donc c'est des achats, reventes de titres, de produits titrisés, de devises, de contrats sur les matières premières, etc. Bon, donc les salles de marché sont reines dans la banque aujourd'hui. Et donc là, ce produit était hyper appétissant. C'était des crédits immobiliers aux ménages. Ils étaient certes risqués, mais ils avaient des super primes de taux d'intérêt. Bon, donc voilà, les petits génies de la finance ont trouvé au départ le produit appétissant, ce qui fait qu'il y en a eu effectivement partout. Et certaines banques étaient plus engagées que d'autres, à la fois directement parce qu'elles ont fait du crédit immobilier aux ménages, mais aussi parce que leur salle de marché, leur compagnie de placement et d'investissement en avaient pris dans leur bilan.
Alors résultat, c'est quand même quelques millions de ménages, je crois, américains, des États-Uniens, qui sont obligés de quitter leur maison.
Alors oui, alors là c'est difficile d'avoir des statistiques complètement au point là-dessus, mais on estime que d'ores et déjà il y a plus d'un million de personnes qui ont été fichues à la porte aux États-Unis, et que dans les tuyaux, ce qu'on peut appeler aujourd'hui la bombe à retardement, il y en a encore 2 à 3 millions qui pourraient l'être à brève échéance. Brève échéance, c'est-à-dire entre 12 et 24 mois, hein, puisque le révélateur, c'est au moment où vos mensualités explosent et où vos taux d'intérêt explosent. Et ça, en gros, c'est assez prévisible.
Alors pourquoi, à un moment donné, se pose la question de l'intervention de la force publique, de l'État ? Pourquoi l'État n'intervient pas, par exemple, par rapport aux ménages qui se retrouvent à la rue ? Et pourquoi se pose la nécessité ou pas d'intervention de l'État pour sauver un certain nombre de banques ? Après tout, on pourrait se dire, elles ont joué, elles ont perdu, c'est la loi du marché, tant pis pour elles.
Alors, on peut donner la réponse tout de suite et puis l'explication ensuite. La réponse, sans la justifier, bien entendu, hein, mais la réponse, c'est les ménages ne représentent pas un risque systémique, les banques représentent un risque systémique. Si un ménage fait faillite, il fait pas faire faillite à son voisin. Je ne dis pas que c'est une très bonne raison de ne pas aller aider les ménages, mais c'est évidemment la position du pouvoir dans ce type de cas de figure, alors que si une banque fait faillite, elle risque d'emmener tout le système financier par effet de domino. Bon, une fois qu'on a donné rapidement cette réponse, il faut quand même dire qu'il y a eu deux types d'interventions qui sont fondamentalement différents dans la période actuelle. Il y a un premier type d'intervention qui s'est mis en branle depuis déjà pratiquement un an, qui est l'action des banques centrales pour approvisionner de manière massive les banques commerciales ou les banques d'affaires en liquidité, comme on dit. Mais en liquidité, ça veut dire en argent de la banque centrale. Alors, pourquoi ce type d'intervention ? Ben parce que suite à la dépréciation des crédits subprime ou des lots de crédits subprime sur les marchés où ils se revendaient, évidemment, tout le monde se regardait un petit peu avec inquiétude en disant, mais cette banque-là, est-ce qu'elle n'a pas pris le bouillon dans les subprimes? Et celle-là, est-ce qu'elle n'a pas pris également le bouillon? Et donc, demain, est-ce qu'elle ne va pas se retrouver en défaut de paiement? Ce qui fait que les banques ne se prêtaient plus d'argent entre elles. Or, c'est un des maillons extrêmement importants du fonctionnement du système financier. Au jour le jour, les banques, et même à la minute, les banques se doivent de l'argent entre elles parce que bah, y a eu plus de paiements de clients d'une banque vers une autre. Et donc, elles ont des positions d'endettement qui sont pas soldées au jour le jour. Donc, il y a une très grosse activité sur ce qu'on appelle le marché interbancaire pour que les banques se prêtent leurs excédents de trésorerie à celles qui ont besoin de trésorerie. Mais une fois qu'est intervenue la crise des subprimes, plus aucune banque voulait prêter de l'argent à une autre banque. Donc les premiers à se méfier des banques, c'était les banques. Bon. Et du coup, le marché était complètement asséché en fonds de trésorerie, et les banques centrales sont intervenues massivement pour créer de toutes pièces cette trésorerie et l'offrir aux banques, à des taux d'intérêt qui étaient très bas, puisque la Fed avait baissé très fortement ses taux d'intérêt. Donc ça, c'est l'action, disons... de.
Quand tu dis ça, c'est les banques centrales, elles fabriquent de l'argent.
Ah oui, elles fabriquent l'argent, oui, ouais. Tout à fait.
Parce que elles, les banques centrales ne procèdent pas de ce type d'opération.
Alors, dans la crise...
Dis-nous si dans le système, il y a des banques qui sont en dehors.
Non, normalement, les banques centrales n'interviennent pas et d'ailleurs ne font pas normalement de crédit à des agents économiques. Bon, que ce soit des ménages, des entreprises. Elles font des crédits seulement aux banques. Elles leur prêtent de l'argent de la banque centrale pour qu'elles aient suffisamment de liquidités pour se régler leurs paiements entre elles. Bon. On verra que les banques centrales sont pas complètement aujourd'hui dégagées de cette affaire parce qu'elles rachètent des crédits en gage. Elles rachètent des crédits de type un peu hypothécaire pour soulager le bilan des banques. Mais donc elles commencent à en avoir aussi un petit peu dans les doigts. Donc ça, c'est le premier type d'intervention. Il est très très conjoncturel, mais il doit être très massif parce que, comme on l'a entendu, ça correspond à des sommes gigantesques. En une seule journée, la Banque Centrale Européenne peut prêter aux banques, au-delà de ce qu'elles prêtent d'habitude, de l'ordre de 100 milliards d'euros tout d'un coup. Hein, ou certaines journées, ça a même été 200 milliards d'euros. Bon. Donc, mais tout ça pour que le marché...
Et cet argent, il vient de où?
Ah non, c'est créé de toutes pièces.
Bah donc alors, il suffit de créer de l'argent pour régler le problème, non?
Alors, c'est une très très bonne question, mais c'est par la rareté de cette monnaie dans laquelle se payent les banques que la banque centrale contrôle le rythme du crédit. Hein. En réalité, plus les banques font de crédit, plus elles vont avoir besoin, à un moment donné, de faire face à des fuites de leur réseau bancaire, et c'est-à-dire des paiements de chez elles vers d'autres réseaux bancaires. Donc plus vous faites du crédit, plus vos clients qui ont eu ces crédits vont en payer d'autres dans d'autres banques, et plus vous allez devoir payer quelque chose aux autres banques, hein, les vont payer la différence. Et donc vous allez vous retourner vers la banque centrale pour dire prêtez-moi les liquidités qui vont me permettre d'honorer ma dette vis-à-vis d'une autre banque. Et c'est par la rareté de cette monnaie prêtée par la banque centrale aux banques commerciales que la banque centrale tient les banques commerciales dans ses mains, d'une certaine façon, et contrôle le rythme auquel elles peuvent développer le crédit. Donc c'est l'instrument de la politique monétaire. Et c'est l'instrument de la régulation, normalement, de la masse monétaire en circulation. Puisque la monnaie qui circule, c'est la monnaie de crédit des banques commerciales. Bon. Donc, on peut en créer, effectivement, quand on veut, en claquant des doigts. Mais le contrôle de cette quantité est surveillé de manière très sourcilleuse par la banque. Et en particulier, elle est contrôlée par le taux d'intérêt qu'elle fixe sur ce type de crédit. En augmentant les taux d'intérêt, par exemple, elle dissuade les banques commerciales d'avoir à demander trop d'argent de la banque centrale, et donc elle les dissuade de faire trop de crédit et dans n'importe quelle condition. Ça, c'est le premier type d'intervention. Mais on n'en est plus là.
Pour rebondir sur ce que disait Jean, là, sur pourquoi les États n'interviennent pas pour aider les ménages, chez nous, en France, il y a quand même, alors je sais pas, quelques à quelle proportion ça correspond, mais il y a des ménages en faillite, enfin des ménages surendettés qui voient leur dette annulée. Et donc peut-être que c'est très peu, ou alors ça correspond pas aux problèmes liés au logement, etc. Mais en tout cas, chez nous, ça existe. Peut-être ça existe pas aux États-Unis, je sais pas. Puis une deuxième chose. Là, moi, si j'ai bien compris, donc l'État fédéral américain a lâché une banque qui finalement jouait sur ce que tu as dit, sur acheter des paquets, racheter des crédits, des actions, une banque qui jouait l'aspect exclusivement financier. Par contre, l'État fédéral soutient toujours des fonds. Alors maintenant, tu disais on connaît le mot subprime, on connaît aussi le mot les mots Freddy et Fanny, qui sont des fonds, si j'ai bien compris, des fonds d'investissement.
Des fonds de garantie.
Des fonds de garantie pour
de refinancement.
L'investissement immobilier. Mmh. Donc, ils servent directement aux ménages à acheter leur logement, si j'ai bien compris.
Oui.
Et ces fonds aussi, sont quelque part en faillite, ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Mais là, l'État fédéral américain a choisi de les soutenir. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, une volonté politique de soutenir plutôt, par l'intermédiaire de ces fonds, les petits propriétaires, qui sont aussi des électeurs, quoi.
Ouais, alors là, c'est délicat, parce que, si on voulait vraiment soutenir les propriétaires ou les petits propriétaires, on empêcherait les expulsions, on créerait des organismes de rééchelonnement des crédits, voire même on effacerait une partie de la dette pour que l'autre partie puisse être remboursée et que donc il n'y ait pas d'effet domino. Donc il y aurait des manières beaucoup plus directes d'essayer d'aider les propriétaires en danger.
Un petit mot sur l'expulsion. Bon, on expulse, mais il n'y a personne pour les racheter, ces maisons.
Oui, c'est ça qui crée le problème.
Les maisons seront rachetées par ceux qui ont été expulsés. Enfin, je pense que
Ouais, c'est pas impossible. Il y a surtout. Non, mais c'est pas impossible. Alors, pour en dire un petit peu plus sur ce que tu disais sur les ménages expulsés, aux États-Unis, il y a un mécanisme assez bizarre qui est que lorsque la valeur du bien qui est financé par le crédit, donc valeur de la maison, tombe en dessous de la dette que doit encore rembourser le ménage, hein, donc par expertise du prix du bien immobilier, le ménage peut être fortement tenté de ne plus rembourser sa dette. À ce moment-là, il sait qu'il va être expulsé, mais l'expulsion et la vente de son bien l'exonère de rembourser le reste de sa dette. D'accord ? C'est effacé. Donc c'est un peu la contrepartie de l'hypothèque dans le contrat. Et donc il y a aussi, dans cette crise, il y a aussi comme bombe à retardement, quand les prix des biens immobiliers auront bien baissé, cette tentation des ménages de se mettre en défaut de paiement en attendant qu'on les expulse, qu'on vende leur baraque. Et de toute façon, leur dette était supérieure au prix de la maison, donc ils s'en sortent plutôt correctement, et ils pourront effectivement à ce moment-là avoir l'espoir de racheter une maison à un prix beaucoup moins cher, et de toute façon de retrouver un crédit. Bon, alors là, c'est la dernière étape qui risque d'être difficile, parce que s'il y a vraiment une crise financière telle que celle qu'on voit se dessiner, les banques vont peut-être remettre du temps à prêter de l'argent à des va-nu-pieds aux États-Unis. Mais ce petit truc à retardement, là, il est tout à fait présent. Alors, sinon, sur l'intervention politique, il faut quand même...
On reprend le fil. Ouais. Donc, premier type d'intervention, tu avais dit, donc les banques centrales...
Fournissent en liquidité les banques commerciales, et l'ont fait dans l'urgence, de manière très réactive, et là, il n'y a rien à dire. Enfin, il fallait vraiment passer la serpillière, comme dirait... comment il s'appelait, Jean-Marc Sylvestre. Bon, mais il n'est plus là. Mais le deuxième type d'intervention, on n'en est plus là. On n'en est plus à une crise de liquidité. On en est maintenant à constater les pertes des banques. Elles ont été inscrites depuis un certain moment dans leur comptabilité et dans leur bilan, et en particulier tout ce qu'elles ont perdu en manque à gagner de remboursement ou par la dépréciation des crédits subprime, voire même par la dépréciation des actions qu'elle détient dans le portefeuille, parce qu'il y a aussi un crash boursier hein, en même temps, ces banques ont dû inscrire des pertes dans leur bilan. Bon, et les constater, ça ne veut pas dire qu'elles les aient réellement faites, ces pertes, mais elles les ont constatées. Et ce qui fait que certaines banques sont virtuellement en faillite, ou proches de la faillite. Alors là, la question se pose de savoir ce qu'on fait, comment on intervient. Est-ce qu'on les rend flous? Alors dans la première phase de la crise, pas mal de banques au bord du précipice ont réussi à se faire soit racheter par d'autres, hein, soit renflouer par des fonds souverains. On a vu l'entrée en scène des grands fonds d'investissement des États exotiques. Ça peut être Dubaï, mais ça peut être aussi la Chine, qui ont renfloué certaines banques en achetant des actions et en devenant propriétaires de ces banques. Et puis c'était en gros la course aux bonnes affaires, parce que certaines banques, leurs actions sur le marché s'étaient dépréciées de 90% en l'espace de 3 mois. Mais là, on n'en est plus là non plus, parce que les fonds souverains trouvent que maintenant, le risque... D'abord, ils sont pas prêts de revoir remonter le prix des actions des banques qu'elles ont rachetées. Donc, ça les refroidit un petit peu. Et puis, ils sont pas prêts d'acheter les canards boiteux d'aujourd'hui. Donc, se pose la question de savoir qui peut les renflouer. Y a qu'une solution, hein, c'est l'État. Y a pratiquement que l'État qui peut les racheter. Et donc, on en est exactement là, avec un secrétaire américain au Trésor qui se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe au socialisme? Je caricature, mais dans sa tête, c'est exactement ce qui doit se passer. Est-ce qu'on passe au socialisme ou est-ce qu'on garde la doctrine telle qu'elle est aujourd'hui? Et la doctrine telle qu'elle est aujourd'hui, même si elle a connu beaucoup d'accrocs, parce que Fannie Mae et l'autre machin... et Freddy Truc ont été copieusement renfloués, mais bon, c'était quand même des agences, enfin des trucs sponsorisés par l'État, comme ils disent. Bon, mais aujourd'hui, la réaction de Paulson, ça a été de dire, c'est toujours la loi du marché qui prévaut.
La réaction de qui?
De Paulson, qui est le secrétaire américain au Trésor, l'équivalent de notre ministre des Finances. Bon. Sa réaction était de dire, c'est la loi du marché qui prévaut, et donc ceux qui ont pris des risques et qui maintenant les voient se réaliser, ils vont être punis. Et ce serait à la fois immoral d'aller à leur secours, puisque ce serait quand même socialiser les pertes. Bon. Et en plus, ce serait créer à long terme un aléa moral, c'est-à-dire que ça crée une mauvaise réputation pour les pouvoirs publics, qui viennent donc au secours de ceux qui ont pris trop de risques, et ça va encourager à l'avenir les agents économiques et les banques à en prendre beaucoup trop. Donc il faut construire la réputation à long terme du pouvoir politique et ne pas intervenir. Voilà, donc c'est la il s'est ready après l'épisode Freddie Mac, enfin les deux organismes de refinancement et cautionnement hypothécaire, après leur renflouement, il s'est complètement ready et pour l'instant il n'est pas question d'aller sauver Lehman Brothers.
Donc on est un peu sur le chemin de crête, nationalisation.
Oui, complètement. C'est très intéressant.
Là c'est entre deux doctrines. Alors, en tout cas,
on est à la fois sur le chemin de crête de la crise et des doctrines, quoi.
Mais en même temps, donc, y a pas d'intervention pour Lehman, mais il y a une intervention pour une compagnie d'assurance qui était quelque part dans la même situation.
On sait pas la grande compagnie d'assurance. Alors j'oublie toujours son nom parce que ça a toujours des noms bizarres. C'est des noms américains. Hein, donc. je ne sais plus comment elle s'appelle. Pour l'instant, on ne sait pas quel va être son sort. On sait que ça va très mal pour elle. Elle n'a pas encore fait de déclaration suivant laquelle ce serait la faillite demain. Enfin, ça peut arriver dans toutes les prochaines heures. Et on ne sait pas encore quelle va être la réaction des autorités à ce propos-là.
Alors peut-être pour poursuivre deux questions, la dimension mondiale ou internationale de cette crise, est-ce que effectivement elle se déroule sur toute la surface du globe, dans les mêmes termes? est-ce qu'il y a des politiques d'intervention d'État différentes qui sont mises en place, par exemple au niveau de l'Europe? Et puis quand même, une question, est-ce que c'est en fait le système financier qui est à remettre en cause, quoi? Est-ce que c'est l'organisation de la finance, l'absence de réglementation? Je me souviens qu'il y avait eu une pétition il y a quelques mois pour la réglementation justement des marchés financiers. Est-ce qu'on est en plein dedans? Est-ce qu'on est en plein dans cette question-là?
Ben, on est en plein dans cette discussion. Il va falloir trancher malheureusement très rapidement. Bon, il va falloir trancher un sur les modalités d'intervention dans l'urgence. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Et puis ensuite, il faut quand même une réflexion assez rapide sur comment on rebâtit les structures de la finance mondiale. Bon. Donc ces deux questions sont, y en a une qui est carrément urgente. Qu'est-ce qu'on fait demain quand une banque fait faillite? Et puis une banque ou une compagnie d'assurance ou un rehausseur de crédit ou un refinanceur hypothécaire, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et puis disons à 6 mois, 12 mois ou 2 ans, comment on rebâtit un système financier mondial qui n'est plus sous l'épée de Damoclès de ce risque systémique. Au niveau international, il y a quand même eu plusieurs pays qui ont été touchés assez fortement. En Angleterre, quelques banques ont quand même bien écopé avec la crise des subprimes, dont une qui a été nationalisée, j'ai encore oublié son nom. En Suisse, la banque UBS, la troisième banque suisse, a failli passer également. En Allemagne, il y a deux banques qui sont passées très près de la faillite. Alors en France, ça a été un peu moins grave, mais enfin, Natexis a perdu de l'argent, la BNP, la Société Générale aussi, alors de manière moins dramatique, mais enfin bon, peut-être que leurs actionnaires pensent pas la même chose que moi, ça se chiffre plutôt à 1 ou 2 milliards d'euros que 10 milliards ou 50 milliards de dollars. Donc il y a quand même des banques qui se sont retrouvées un peu partout dans le monde bien affaiblies par la crise des subprimes, mais le danger maintenant, c'est le danger d'un effet domino suite à la faillite de quelques banques, parce que maintenant il s'agit plus de constater les pertes sur les subprimes, on va voir des banques faire faillite aux États-Unis. Déjà d'ailleurs une dizaine de banques régionales américaines ont fait faillite. Et donc partout dans le monde, des banques qui vont se demander, mais quels sont nos engagements vis-à-vis de cette banque? Est-ce qu'on lui a prêté de l'argent? À quelle hauteur? Quels sont les contrats croisés de prêts, d'endettement qu'on a avec elle? Alors là, en ce moment, tout le monde est en train de regarder dans ses petits papiers où ils en sont. Bon. Mais dans les tuyaux, il n'y a pas seulement Lehman Brothers. Il y a toutes les banques régionales américaines qui sont très affaiblies par la crise des subprimes et dont on apprend régulièrement qu'il y en a une qui fait faillite. Le gros risque qui donc au-delà, hein, il va y avoir un effet domino entre les banques. Hein, il y en a qui, par exemple, si on avait sauvé Merrill Lynch aux États-Unis, c'est Bear Stearns, pardon, si on avait sauvé Bear Stearns. C'est parce que derrière, Lehman Brothers était super créancière de Bear Stearns. Donc, elle était déjà, Lehman Brothers, dans le jeu de domino de la faillite d'une autre banque, mais celle-là, on l'avait sauvée. Bon. Donc, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas des banques qui sont exactement dans la même position vis-à-vis de Lehman Brothers qu'aujourd'hui, l'administration américaine ne veut pas sauver? Donc il risque d'y avoir ce jeu de domino. Mais surtout, il y a un deuxième truc qui risque de déflagrer, ou il risque d'y avoir une nouvelle déflagration, c'est que l'organisme aux États-Unis qui garantit les dépôts de tous les déposants, donc tous ceux qui ont des comptes en banque, qui s'appelle la FDIC, cet organisme est déjà à sec. Parce qu'il a dû intervenir pour garantir les dépôts des banques régionales qui ont déjà fait faillite. Donc aujourd'hui, il est à sec. Donc qu'est-ce qui se passe si demain, les petits épargnants de Lehman Brothers sont carrément floués? Il n'y aura personne pour venir les renflouer. Bon, bah donc tous ces gens-là, demain, ça fait des consommateurs en moins, ça fait des gens qui sont dans la panade, etc. Bon, Ça fait des dettes également qu'ils ne peuvent plus rembourser, parce que s'ils ont perdu de l'argent sur leur compte en banque, peut-être qu'ils peuvent pas non plus rembourser leur crédit. Donc là, ça commence quand même à pénétrer la sphère de l'économie réelle. On attaque les ménages, le bas de laine. Mais surtout, si cette info, c'est ce que dit Jacques Sapir dans un papier qui circule sur Internet, il faudrait peut-être pas qu'il circule d'ailleurs, sur Internet depuis ce matin, il dit, si le public américain est au courant que la FDIC ne peut plus garantir les dépôts, la réaction de foule, c'est de se précipiter à sa banque pour retirer ses dépôts. Et donc là, c'est une panique bancaire nationale, voire mondiale, qui pourrait se déclencher. Et il suffirait qu'on montre 2-3 reportages à NBC ou à TF1 avec des gens qui font la queue au guichet des banques pour que ça aille vraiment très très mal. Et donc là il y a un risque absolument énorme. Ça, autrement dit, la crise de liquidité, elle a été juste qu'ici cantonnée aux banques par miracle. Parce que presque un miracle. Seules les banques se sont méfiées des banques. Bon. Si demain les déposants se méfient des banques, voilà, on va avoir des retraits massifs de liquidités.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Le journal Tumulte avec Guy, nous recevons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. Dernière suite de notre journal. Alors Laurent, crise financière, crise mondiale, on est en plein dedans. Est-ce que cette crise devient une crise économique ?
Alors oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, bah, tant que c'est qu'une crise financière, ça ne nous regarde pas trop, c'est les banques qui vont chuter. Bon, au passage, ça fait quand même des employés qui sont liquidés quand même en masse. Et puis si vraiment les banques font faillite, au bout d'un moment, elles n'honorent plus non plus leurs dettes vis-à-vis des particuliers. Et donc quand vous allez rechercher vos dépôts, ils n'existent plus, ou plus qu'à moitié, ou plus qu'au quart. Bon, donc ça c'est un premier élément de contagion à l'économie réelle. Si vraiment beaucoup de banques font faillite, des ménages vont le sentir passer. Mais les mécanismes de contagion, ils passent par d'autres canaux aussi, c'est par trois canaux principaux. Le premier, c'est celui qu'on appelle le canal du credit crunch, le crash du crédit. C'est que la plupart des banques qui doivent essuyer des pertes importantes vont devenir de plus en plus prudentes. Autant elles ont été imprudentes il y a 3 ans, 4 ans et 2 ans, autant le balancier va partir dans l'autre sens, et donc vont être extrêmement réticentes à créer de nouveaux crédits, alors que ce soit pour des ménages qui veulent acheter leur logement, mais surtout pour des entreprises qui veulent faire des investissements, développer des projets d'entreprise, acheter des machines, des usines, construire des routes, etc. Donc les conditions d'octroi des crédits aux agents économiques non financiers vont aussi se durcir. Non seulement les taux d'intérêt vont monter, parce qu'ils vont contenir une prime de risque plus élevée, mais en plus ils vont être clairement rationnés. Bon. Donc c'est par le canal du crédit, il y aura un frein très brutal à l'activité économique. Bon. Alors ça on pourrait dire c'est le canal du crédit et de l'investissement. Il y a un deuxième effet qui est l'effet qu'on appelle l'effet richesse, mais qui va fonctionner cette fois-ci à l'envers, parce que la baisse des prix de l'immobilier et la baisse des actions sur les marchés financiers, les bourses chutent dramatiquement. La baisse du cours des titres et des actions fait que beaucoup de ménages, alors vous allez me dire pour certains aisés, mais pas toujours, vont constater que leur épargne et leur fortune se déprécient au rythme de la baisse de la bourse. Et donc, du coup, ils vont être moins, plus réticents eux-mêmes à s'endetter, parce qu'ils voient que leur fortune diminue. Et surtout, ils peuvent être tentés de reconstituer leur épargne pour contrer la baisse de la valeur de leur titre. Bon. Et donc, de consommer moins. Alors, et c'est pas tant, par exemple, pour l'ensemble des ménages américains qui comptent sur les cours de bourse pour voir leur retraite financée. Alors, par l'intermédiaire de leurs fonds de pension, qui sont des fonds de capitalisation. Et aux États-Unis, cet effet richesse est extrêmement puissant. Hein, quand les cours de la bourse montent, les ménages croient que leur fortune s'améliore et donc se sentent dispensés d'épargner et consomment beaucoup. Et à l'inverse, quand les cours de bourse chutent, c'est pas le moment d'aller consommer. Il faut recommencer à penser à sa retraite et à mettre de l'argent de côté parce que ça monte pas tout seul. Et ça baisse. Donc cet effet richesse risque d'être très très fort. Jacques Sapir, dans le papier qui circule sur Internet, est professeur à l'EHESS, et il donne déjà des estimations, mais en gros il dit que la consommation des Américains pourrait baisser très rapidement de 3 à 4 à 5%. Bon, c'est quand même la principale composante de la demande. Ça peut, sur la croissance, ça peut faire une belle récession. Bon, c'est donc un canal extrêmement puissant. Puis il y a un autre canal qui n'existe pas dans tous les pays, mais par exemple aux États-Unis qui risque encore d'aggraver les choses, c'est ce qu'on appelle le home equity extraction. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est le génie de la finance américaine. Quand vous aviez un crédit sur votre logement aux États-Unis et que vous aviez déjà remboursé un petit peu votre logement, vous aviez automatiquement une ligne de crédit nouvelle pour votre consommation et qui fait la différence entre le prix d'achat de votre logement et ce que vous avez déjà remboursé. Tout ce que vous avez remboursé, vous pouvez l'utiliser comme une nouvelle ligne de crédit pour la consommation. Mais mieux que ça, quand le prix de votre logement augmentait sur les marchés de l'immobilier, les banques réévaluaient cette ligne de crédit en disant maintenant, de toute façon, votre logement, le prix, si vous le revendez demain, il a augmenté de 20%, donc on vous augmente votre ligne de crédit à la consommation, puisqu'on a en hypothèque votre logement, pour nous, c'est pas un problème. Donc plus les prix de l'immobilier augmentaient, plus les ménages avaient du crédit à la consommation gagé par la valeur de leur logement. Mais maintenant, cet effet, il va fonctionner exactement à l'inverse. C'est que maintenant, les prix du logement sont passés en dessous de la dette des ménages, et donc, il va y avoir restriction totale du crédit à la consommation sous cette forme-là. D'accord? Ça va carrément disparaître, il n'y en aura plus. Bon. Et surtout, les banques, alors c'était prévu dans le contrat, ils avaient pensé quand même à tout. Dans ce cas de figure-là, les banques se permettent tout de même de rehausser les taux d'intérêt et les mensualités des ménages américains pour qu'ils remboursent tout de même un petit peu plus vite leur maison parce qu'elle ne vaut plus grand-chose. Et donc, ça va fonctionner exactement à l'inverse, ça va plomber la consommation des ménages. Si bien que j'ai un collègue qui dit, mon collègue Franck Van de Velde de l'Université de Lille, qui dit « Oui, tout ça était pas mal fait, tous ces mécanismes étaient vraiment très bien faits pour quand ça marche bien. Quand tout monte, quand les prix de l'immobilier montent, quand la valeur des actions monte, quand les revenus augmentent, tout ça, ça fonctionne parfaitement, tout le monde a l'air d'être content. Mais quand ça fonctionne, quand ça monte plus et que ça se renverse, tous ces mécanismes, par un effet de mauvaise symétrie, ils emmènent tout au fond de la piscine. Donc voilà un peu les mécanismes de transmission à l'économie réelle. Et je parle pas là-dedans de la crise qui serait la crise financière et bancaire totale, où il y aurait retrait de dépôts et faillite bancaire en chaîne, si bien qu'au total, les déposants seraient pas remboursés. Et là, on est dans une situation équivalente à la situation de l'Argentine au tournant des années 2000.
C'est possible, ça, Laurent. Tu penses que c'est une éventualité?
Moi, ça m'avait déjà surpris qu'il n'y ait pas eu ce type de panique au moment où on a parlé des premières difficultés, des premières faillites bancaires en Angleterre et en Suisse. Bon. Parce que que la défiance ne s'installe qu'entre les banques et qu'on ait réussi à cantonner la peur et la panique à cet endroit-là m'a paru assez surprenant. Et j'ai pas la télé, enfin je l'ai plus. Et donc je me demandais si on avait montré à la télé ou pas les queues des déposants retirant leur argent dans cette banque anglaise qui a fait faillite et qui a été nationalisée au dernier moment.
On a vu la photo dans les journaux, moi je l'ai vu dans...
Voilà. Est-ce qu'il y a eu des digues au niveau de l'information, au niveau de la communication? Est-ce qu'il y a eu des consignes qui ont été données? J'en sais rien, mais je suis un peu étonné que la contagion se soit pas produite. Je pense quand même que demain on risque de voir à la télé aux 20h les queues déposant chez Lehman Brothers. Ça va faire quand même mauvais genre.
Et justement, dans ton article dans Le Monde Diplomatique, tu cites Alan Greenspan, l'ancien président de la Réserve fédérale américaine, qui lui dit que c'est la crise la plus grave depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et même depuis quasiment une crise équivalente à celle de 29. Il va plus loin, hein, il dit que c'est une crise économique, hein, qui dépasse la simple crise bancaire, qui laissera de nombreuses victimes. Donc toi,
Il y en a déjà. Hein. Il y a déjà tous ceux qui ont perdu leur logement aux États-Unis, mais il n'est pas du tout imposé. Ben, déjà le rationnement du crédit qui va s'opérer, ça va quand même être un ralentissement de l'activité des entreprises. Ça va être des licenciements dans les entreprises. On entre quand même dans une récession. Il n'est pas aberrant de penser que on puisse avoir 0% de croissance dès le prochain trimestre. 0% de croissance, c'est les vagues de licenciements qui reprennent. Hein. Ça va se traduire très rapidement.
Peut-être une dernière question, justement, en se lançant dans des prospectives. Le centre névralgique, c'est les États-Unis. Si on a par exemple Barack Obama qui est élu aux États-Unis, on peut estimer que ça peut changer quelque chose à cette situation.
Voilà, de toute façon, il faudra peut-être pas attendre l'élection de Barack Obama, parce que
en 29, on a attendu 32 quand même. On a attendu, Roosevelt.
Mais le mal était fait. Mmh. Le mal était fait. Ça peut quand même aller assez vite. Or là, il y a quand même un moment où on est sur la question du basculement de doctrine. On voit ces gens qui perdent un petit peu les pédales. Greenspan, parce que t'as pas lu la suite de la déclaration de Greenspan. Il dit que c'est la crise la plus grave qu'on ait connue depuis la guerre. Maintenant, il dit depuis un siècle dans ses interviews. Hein. Et il dit qu'elle va faire des millions de victimes. Mais j'espère qu'une des victimes collatérales de cette crise ne sera pas l'autorégulation des marchés. C'est carrément schizo. Le gars voit bien que ça s'autorégule pas, puisqu'il dit qu'on est dans une crise. Ou alors je sais pas ce que ça veut dire le terme de crise, mais ça s'autorégule pas, c'est son constat. Et ça va faire des millions de victimes. Mais il espère qu'une des victimes collatérales sera pas l'autorégulation des marchés. Il faut réinterpréter que l'une de ces victimes collatérales ne sera pas le libéralisme. Bon. Et l'idéologie libérale. Et ils sont tous sur ce registre-là en ce moment. Hein. Ils sont. Paulson dit il faut re-réglementer. Il faut re-réglementer, mais attention, ne faisons rien en re-réglementant pour, limiter l'autorégulation des marchés. Mais si vous avez besoin de réglementer, c'est que ça s'autorégule. Enfin, donc on voit les grands responsables de la planète essayer. Tant bien que mal dans leur discours de rattraper les choses, mais on voit bien que là, ça se rattrape plus du tout. Quand on est au moment de l'épreuve de vérité et ça colle plus. On peut citer aussi Jean-Pierre Gaillard, c'était assez rigolo, qui disait, bon, c'est pas un haut dirigeant financier de la planète, mais qui disait à France Inter, je crois, ils vont le rechercher de sa retraite à chaque fois qu'il y a un petit coup de moins bien sur les marchés financiers. Il disait, il essayait de rassurer les épargnants. Et en disant, oui, mais bon, vous savez, la bourse a déjà bien baissé. Hein. Donc, les marchés avaient anticipé tout ça. Donc, c'est, en gros, sous-entendu, c'est pas la peine d'en remettre un petit coup de molette et c'est pas la peine de vendre vos actions. Le cours des actions reflète déjà les anticipations de dépréciation d'actifs, de pertes, etc. Et c'est le bon cours. Et il ajoute, Mais ceci dit, il serait quand même utile de convaincre les agents que c'est bien le cas. Et donc dans sa tête, il peut y avoir une distinction entre marché et les agents. C'est-à-dire les marchés auraient anticipé un truc, donc ils auraient vendu les actions, les prix auraient baissé. Mais les acteurs, c'est-à-dire ceux qui ont des actions, ils le savent pas encore. Enfin, il y a un truc assez délirant parce que c'est quand même eux qui ont vendu des actions en anticipant les choses. Bon, donc il y a vraiment, on s'aperçoit dans les discours que il y a plus rien qui est tenu et véritablement compris. Et en même temps, les gens sont coincés par leur idéologie. Moi, je pense qu'on est à un moment où il y a une épreuve de vérité assez manifeste.
Alors une situation quand même assez incroyable où finalement l'idéologie néolibérale s'écroule d'elle-même. Elle n'est pas remise en cause dans ses fondements par la doctrine hétérodoxe. C'est pas les économistes, Laurent Cordonnier, Isaac Joshua ou d'autres qui ont battu en brèche l'idéologie néolibérale. Elle s'écroule. Mais en même temps, on peut se demander, est-ce que du coup, les gens qui sont en place, qui sont les grands dirigeants financiers dont tu parlais ou économiques, qui sont dans la doctrine néolibérale, même si elle s'écroule, est-ce que ces gens-là sont à même de porter
une solution
de type nouvelle réglementation ou même régulation, mais
on peut se le demander et en même temps on a presque pas d'autre solution. Il vaudrait mieux qu'ils retournent leur veste le plus rapidement possible et qu'ils nous chantent une autre chanson. Bon, même s'ils se mettaient à chanter une chanson socialiste, ça les maintiendrait au pouvoir demain, mais il vaudrait mieux ça. De toute façon, ça s'est déjà produit, hein, au moment où il y a eu le renversement du consensus entre les keynésiens et les libéraux. C'est à peu près les mêmes qui sont restés en place et qui se sont mis en 2 ans à nous chanter une autre chanson. Bon, donc ils peuvent changer de doctrine, ils peuvent changer de cheval pour continuer à peu près la même route, bon, tout en essayant de parer aux errements les plus évidents. Moi, je crois que ça va être un peu quelque chose dans ce goût-là. Ils ont déjà fait des choses un petit peu hétérodoxes quand même. Le refinancement des banques commerciales aux États-Unis, ça s'est fait en prenant de la largesse avec la doctrine de la Banque centrale de la Réserve fédérale américaine. Aujourd'hui, ils en sont acceptés comme gage de refinancement des banques commerciales, pratiquement des crédits subprimes. Donc, ils leur rachètent quasiment leur prêt pourri pour les refinancer. Donc, dans la panique, ils sont capables d'aller très très loin. Et de mettre la doctrine par-dessus bord. Il faudrait peut-être pas que M. Paulson se raidisse un peu trop, mais Jacques Sapir, dans le même papier, nous dit oui, mais il est vraiment tenu par le camp républicain, il fait partie de l'administration républicaine, et c'est pas au moment des élections présidentielles qu'il peut donner des gages, disons, à une pensée de gauche en rachetant des banques, en nationalisant des banques. Donc peut-être que s'il s'est raidi sur Lehman Brothers, c'est peut-être uniquement une affaire politique, il peut pas donner des gages à l'idéologie adverse et au camp adverse. Donc bon, ça se retourne pas vite, mais ça peut quand même se retourner. De là à dire que ces gens sont prêts à rebâtir le système financier international sur des bases raisonnables, moi j'irai pas jusque là du tout. Parce que grosso modo, il va quand même falloir qu'ils fassent du tort à leurs copains. Toute cette finance qui grouille depuis maintenant 15 ans et qui est leur milieu, quoi, qui est le milieu dans lequel ils sont nés, dans lequel ils ont grandi, avec les gens avec qui ils mangent le soir. Donc tout ça est très difficile. Parce qu'on peut, il faudrait supprimer tout ça. On peut se passer de 90% des activités financières. On a simplement besoin que les banques fassent du crédit aux ménages pour qu'ils achètent un logement et qu'elles fassent du crédit aux entreprises pour qu'elles achètent des biens d'investissement. Tout le reste est pratiquement inutile. Pratiquement inutile. Bon. Alors on dit, oui, mais il faut assurer, il faut compenser, etc. Mais...
Bon, ça simplifierait la compréhension des problèmes, hein, Guy, ouais, si on évacuait tout ça.
Mais on a l'impression d'être un vieux schnock quand on dit ça, mais pendant les 30 Glorieuses, on n'avait pas toute cette architecture financière, ça marchait. Ça marchait à peu près correctement.
On va clore ici ce journal. On n'aura pas le temps d'aborder la question du financement du revenu social d'activité. Ça sera une prochaine fois. Ni de parler de... Je sais plus ce qu'on avait parlé de mettre...
Ah, on voulait parler des profits des entreprises.
Profits des entreprises. Bon, ce sera pour ta prochaine venue. Bon, on vous recommande donc de lire Le Monde diplomatique de septembre, avec en particulier cet article de... signé par Laurent Cordonnier.
Il y a un autre article signé par un économiste, tu l'as lu, Laurent? Non, ça s'appelle « Changer le travail pour financer les retraites ».
Oui, très bien. Ouais, voilà. Par Pierre Concialdi.
Donc il y a des choses qui ont l'air bien.
Voilà. Et puis, on voulait parler aussi de quelques lectures d'été. Mais je vois qu'il nous reste peut-être 10 secondes, Laurent.
Oh bah non, ah, je vous laisse.
Bon. Bah non, mais on en reparlera la prochaine fois.
Oh bah voilà,
l'été est loin d'être terminé.
Ce sera encore l'automne.
Bah oui.
Voilà. Allez, salut. Et c'est ainsi que se termine ce magazine Tumulte. Tumulte sur Radio PFM, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 15h et à 12h30, et sur le net radiopfm.com. Alors salut et à la semaine prochaine. Et à partir d'octobre, on retrouvera nos rubriques, et en particulier Xavier, le premier tumulte du mois. Le deuxième tumulte du mois, ce sera Chronique des ballons avec Thierry Crépin. Et puis le troisième tumulte du mois, vous retrouverez Sylvie Neve, Poème provisoire. À la semaine prochaine, ciao.